Sur les voies du paranormal, nous retrouvons Marc Menard.
Et oui, et on reste sans voix pour autant ce matin, parce que ces phénomènes qui sont égrenés par Jacques Mandorla, écrivain, journaliste, rédacteur en chef du magazine Facteur X, qui est un bimensuel, sont plus que étonnants. Je rappelle aussi le grand livre des énigmes aux éditions Atlas, c'est l'un de vos ouvrages. Et puis notre confrère, le Figmag, qui ce matin sort un énorme dossier, l'explosion du paranormal. Nous en sommes témoins, nous le vivons avec vous. Et grâce à vous, c'est vrai que c'est de plus en plus intense, de plus en plus dense, puisque vous avez, selon le dernier sondage qui vient de sortir, la gentillesse de nous prêter vos oreilles, énormément, énormément nombreux donc. Alors, nous avons des manifestations physiologiques dans le ressenti, mon cher Jacques. Par exemple, est-ce qu'ils se sentent légers ou lourds? Il semblerait que là encore, tout ne soit pas...
Il y a les deux, Marc, il y a les deux, absolument. Bon, il faut dire que 90% des lévités telles qu'ils ont décrit ensuite, leur expérience, disent avoir été allégés. D'ailleurs, lévitation vient du latin lévitatis, qui veut dire légèreté. Donc, mais certains se disaient très alourdis, comme pesant 3 ou 4 fois leur propre poids sur Terre, normal. Donc, comme si des cosmonautes, puisque certains d'ailleurs, on comparait les lévitations à ce que les cosmonautes qui sont sur la Lune, lorsqu'ils sont en état d'apesanteur ou dans les avions ou dans les navettes, et sur d'autres planètes, le corps peut être multiplié par 2 ou 3 son poids. Donc là,
ça dépend des lois de la gravitation.
La gravitation, selon, voilà. Et on retrouve des écarts comme ça, c'est-à-dire des gens qui se sentent 10 fois plus légers que ce qu'ils sont sur Terre en lévitation, ou alors 3-4 fois plus lourds. Donc, mais majoritairement plus légers.
Oui, parce que les cosmonautes, eux, ou astronautes, se sentent extrêmement légers en état d'apesanteur. Tandis que là, c'est d'avoir cette sensation d'être comme lesté et pourtant de décoller.
De décoller, voilà. Et puis d'avoir des mouvements beaucoup moins lourds, parce que quand on voit les astronautes, ça a l'air emprunté, les mouvements en état d'apesanteur, alors que Copertino, Saint-Thérèse d'Avila et beaucoup d'autres ont l'air de se déplacer, de bouger dans une facilité déconcertante.
Bah oui, parce que l'astronaute ou le cosmonaute, il est désorienté par ce manque de gravité, car il garde un état conscient, alors que là, on est dans l'extase, donc dans une inconscience, d'une certaine manière.
Dans un état modifié de conscience, absolument.
Alors voyons ce qui se passe du côté de l'Asie, enfin de l'Est de la planète, avec Isabelle Robinet. Vous êtes professeur à l'Université d'Aix-en-Provence, vous avez publié de nombreux livres, dont Lao Tzu et le Tao aux éditions Bayard, Méditation taoïste aux éditions Albin Michel, L'introduction à l'alchimie intérieure taoïste aux éditions du Cerf. Isabelle Robinet, bonjour.
Bonjour.
Alors, parlons de ces phénomènes dans le monde du taoïsme. Il semblerait que là, de nombreux exercices et puis des années de sagesse puissent naturellement déboucher sur l'engendrement du phénomène.
De quel phénomène?
De cette lévitation.
Lévitation, oui, c'est pas vraiment la lévitation. C'est qu'ils volent. Ils ont ce qu'on appelle les immortels, c'est-à-dire les gens qui ont atteint justement un état divin, si vous voulez, ont des plumes, ont des os d'oiseaux et volent.
C'est-à-dire qu'ils ont...
Ils volent et ils peuvent se transporter partout dans le monde, et au-delà du monde.
Alors, est-ce que ça signifie que là, c'est plus une sorte de symbolique mentale ou de l'esprit qui échapperait à la carcasse charnelle, ou est-ce qu'il y a vraiment cette manifestation que l'on peut regarder vue de l'extérieur, c'est-à-dire de voir un personnage qui s'envole?
Il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord aussi une évolution dans les conceptions. Il y a au début, il y avait la croyance véritable en des gens ailés. Ça faisait partie de la géographie, si vous voulez, de la façon dont on vante les exploits des saints. Il y a un autre niveau qui est l'idée qu'on acquiert un corps spirituel, donc c'est avec le corps. Dans le taoïsme, c'est toujours avec le corps. Le corps n'est pas, comme dans le christianisme, rejeté comme une dépouille, ou il est transformé, il est spiritualisé. Et donc c'est un corps spirituel qui, lui, a tous ses pouvoirs de voler, d'ubiquité, de métamorphose, etc.
Alors on dit que le taoïste cherche à, en quelque sorte, se gaver, se nourrir de la lumière céleste.
Oui, c'est pas se gaver, c'est se nourrir. Il ne se nourrit plus, il se nourrit de nourriture éthérée, si vous voulez. Alors ça peut être se nourrir de souffle, qui est le souffle vital, qui est le fondement du monde, ou se nourrir de lumière en absorbant, par exemple, les rayons du soleil ou de la lune, ou des astres.
Ça passe par une sorte de projection mentale, c'est ça? On se concentre et on essaie d'imaginer que cette lumière vous gagne, vous irradie au fur et à mesure?
Oui, c'est ça. Et alors on fait venir le soleil ou les étoiles de la grande ours à l'intérieur de soi, et il rend les entrailles lumineuses, et il rend tout le corps lumineux, et ce genre de méditation, c'est des méditations, c'est des exercices, se termine par un flamboiement de lumière à l'intérieur et à l'extérieur.
Et ça, il est noté par des témoins extérieurs, justement.
Les témoins sont toujours... Non, en général pas. C'est sous forme de méditation, d'exercice à accomplir. Et bon, les gens y croient probablement et ça doit avoir une certaine efficacité puisque ça a été pratiqué et c'est pendant des siècles.
Alors on dit aussi, je ne sais pas si votre connaissance, parce qu'en général, les gens comme vous essaient de s'intéresser à des domaines très charpentés afin de mieux pouvoir témoigner. Est-ce que vous avez étendu votre recherche, par exemple, aux Tibétains?
Non, c'est assez différent.
Mais avez-vous eu quand même quelques éléments d'information, puisqu'il semblerait que chez les Tibétains, il y ait aussi cette recherche et cette possibilité après d'atteindre cette légèreté?
Certainement, chez les Indiens aussi.
Alors ça, c'est le côté yogi?
Oui, le yogi, c'est une des disciplines parmi celles-là.
D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Isabelle Robinet. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Aix-en-Provence. Jacques Mandorla, sur les yogis, vous avez, vous, dans vos dossiers, quelques petits éléments
Oui, Isabelle est encore en ligne, là. Je voulais lui poser une question. Je ne sais pas si on l'a encore.
Oui, apparemment.
Oui, Isabelle.
Non, eh ben non.
Non, parce que j'avais lu sur le taoïsme que ils essayaient de contrôler leur respiration. Et ça me paraissait intéressant parce qu'on le rencontre dans d'autres cas de figure. Alors, au niveau des Tibétains, donc les fameux lamas, on a là des expériences et des récits surtout écrits par Alexandra David Neal, donc cette grande voyageuse anglaise qui, il faut le dire, à la fin du siècle dernier, c'est très courageux. Une femme a traversé tous les continents pour aller dans des pays inconnus, toute seule. Donc, c'était une expérience phénoménale. Et elle a raconté un certain nombre d'expériences dans son livre Mystère et magie au Tibet. J'en ai noté plusieurs. Donc, elle a rencontré quelqu'un qui est donc un lama qui était quasiment nu, en position de lotus, enfin en position donc de concentration, assis dans la neige. Il faisait fondre la neige autour de lui, tellement il dégageait de chaleur. Alors il n'était pas en lévitation, mais il y avait des chaînes sur lui qui pesaient sur son corps. Justement, elle a demandé pourquoi on enchaînait cette personne. C'était pour éviter qu'il s'élève, qu'il lévite. Et donc il fallait le caler au niveau du sol.
Alors est-ce que dans les manifestations qui se dérouleraient de manière plus constante, on peut parler du langpo? C'est l'une des pratiques tibétaines justement, c'est ça, c'est-à-dire que ça donne à l'homme une capacité à déambuler comme un kangourou, avec une légèreté invraisemblable.
Voilà, ça se traduirait, je dirais, en français, par la marche en état de transe. C'est comme ça que les traductions sont faites. C'est-à-dire que, effectivement, les lamas marchent à très grande vitesse, les pieds effleurent à peine le sol, donc c'est une sorte de lévitation, c'est une sous-famille de lévitation, on va dire, effectivement par bond, mais par des grands bonds, sans que les pieds vraiment martèlent le sol. Donc,
Et je crois même qu'il y a une position où ils ont les jambes comme repliées sur elles-mêmes, et ils vont bondir sur leurs genoux, ce qui paraît complètement fou, parce qu'il faut quand même trouver l'impulsion nécessaire pour aller comme ça cheminer.
Ça a été cité effectivement par différents auteurs, dont Alexandra David Neal, effectivement, que dans certains cas, c'était même pas les pieds, les talons qui touchaient, mais les genoux, effectivement. Je rappelle d'ailleurs que ça ressemble, si on fait la comparaison, sans que je sois en train de blasphémer, moi ça me fait penser au Christ marchant sur les eaux, et puis Pierre à côté qui lui s'enfonce dans l'eau. Donc le Jésus-Christ effleurait l'eau et procédait par bond finalement dans cette marche. Et donc ça ressemble un petit peu à ce que les lamas tibétains pratiquent régulièrement.
C'est intéressant, ça donne même l'idée de faire une émission un jour sur Jésus et les prodiges paranormaux, parce que des miracles et autres manifestations qui furent siennes, on pourrait peut-être voir s'il n'y a pas des parallèles
très intéressants peut-être à faire. Oui.
Alors dans la deuxième demi-heure, bien évidemment, on va continuer à développer certains de ces phénomènes. Est-ce qu'il y a une sorte de... table des records, comme si les Jeux Olympiques de la luminescence et de la lévitation avaient eu lieu, quels seraient les records?
Alors en luminescence, ça on a hélas peu mesuré les rayonnements, on a simplement noté que c'était autour de la tête ou bien le corps tout entier, ou près du cœur, on l'a vu pour cette Italienne Anna Monaro. Par contre, au niveau de la lévitation, en moyenne, il faut dire que les corps lévitent entre 20 cm et 1 mètre maximum, c'est-à-dire ce qui est quand même déjà exceptionnel, j'aimerais bien le faire chez moi tous les matins. Mais on a des records effectivement qui peuvent atteindre, on l'a dit tout à l'heure, Cupertino, sur la cime d'un olivier. Donc on est là entre 5 et 7 mètres. Et puis il y avait même des records plus importants.
Alors j'ai noté dans les notes que vous m'aviez confiées, il y a Marie-Madeleine de Pazzi, 8 à 9 mètres. Pierre Alcantara, le toit d'une église.
Voilà, lui, alors, il évitait tout le temps près des églises et près du toit. C'était son dada personnel.
Eh bien, écoutez, c'est un beau record, on le note. Il ne faut pas l'éviter, c'est l'heure des informations, donc nous allons le retrouver.